Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la vie et la mort, s'il te plaît, dis à maman que je pense à elle tous les jours.
Sébastien, c'est pas juste l'homme, quoi, j'ai.
Tu leur diras tout. Quoi, je suis capable.
C'est un peu culture monde ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de la République tchèque, de l'Afrique du Sud, des Roms, de l'apartheid, de fiction documentée et même de Charles Mingus avec Alain Chocard qui réalise Lady Grey ou Les secrets et les silences de l'Afrique du Sud 10 ans après l'apartheid. Un premier film de fiction pour celui qui fut le chef opérateur de Bertrand Tavernier, Benoît Lagan.
Et pour ce film, le réalisateur a fait appel au compositeur Peter Von Pohl qui nous interprétera tout à l'heure la chanson titre du film avec Marie Modiano en direct du studio 108.
19h35, le plateau sera militant avec Petr Vaclav qui signe Zaneta, un film qui met en lumière la situation des Roms en République tchèque à travers le portrait d'une jeune mère de famille. Toujours Benoît.
Avec ce nouveau film, Petr Vaclav poursuit sa fiction à l'esthétique documentaire ou comment prendre la parole afin de rompre le silence des artistes et intellectuels tchèques sur la situation des Roms.
Sans oublier le questionnaire autoportrait du lundi de Manu Farine, ce soir ce sera au tour de l'écrivain Frédéric Siriez. Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec le son du jour.
Ouais.
Contrôle discal, ouvrez la porte.
Mais c'est quoi un contrôle discal? C'est moi l'inspecteur la galette, c'est moi qui fais le contrôle discal. À qui ai-je l'honneur?
Ben justement, l'inspecteur la galette va prendre les galettes, vous avez affaire à l'inspecteur de bouse.
Oui, d'accord, mais vous voulez contrôler quoi, mes vinyles?
Vous allez m'ouvrir cette armoire, je vais voir ce qu'il y a dedans.
C'est l'armoire à vinyle?
Exactement.
Et je la montre jamais à personne.
On a rien à foutre, vous allez la montrer cette fois.
Oh, attendez, je me mets devant l'armoire, là, ça marche pas, ça.
Bonsoir, Zoé Sfez.
Bonsoir, Laurent, bonsoir à tous.
Mais quelle voix pour ce son du jour.
Et oui, ce son du jour. Alors, si vous êtes auditeur de France Culture, mais aussi parfois de Radio Nova, on peut être les deux, ou simplement amateur de musique brésilienne ou même de musique tout court, vous avez certainement reconnu la voix, on peut le dire, inimitable de Rémy Kolpakopoul, alias RKK, alias Inspecteur Lagalette. Il s'est éteint ce week-end à l'âge de 66 ans. C'était une figure assez mythique de la radio, de la vie musicale française. Alors il a démarré comme maoïste convaincu à la MJC de Saint-Cloud. Il y découvre là-bas la musique brésilienne et commence une histoire d'amour fusionnel avec donc la musique brésilienne, mais la musique tout court, qui l'a, dit-il, empêché de tomber vraiment amoureux de personne d'autre réellement. Il découvre ensuite l'Afrique en étant correspondant pour Libération, ajoute la rumba zaïroise à ses autres conquêtes et il devient ensuite l'une des voix les plus importantes de Radio Nova, où il accueille les invités dans justement cette émission Contrôle Discal, où ils vont tous puiser dans son énorme discothèque de disques et de vinyles. Et puis ensuite, il découvre sur le tard les joies de la platine et il devient, à 50 ans, DJ. Il fait un grand compagnon de route de Jamel Debbouze aussi et du Jamel Comedy Club où il animait C'est lundi, c'est Rémy. C'est là qu'il a fêté son dernier anniversaire entouré de femmes, de musique et de jeunes, comme il se décrivait lui-même.
Et tout de suite, Zoé, on passe au dossier du jour. Il y a un peu plus d'une semaine, le Népal a subi un violent séisme particulièrement meurtrier, mais aussi destructeur en matière de patrimoine culturel. Alors que les archéologues tentent encore de mesurer l'ampleur des dégâts, ils mettent en garde contre le risque de pillage.
Alors c'est un risque et c'est même déjà une réalité, puisqu'hier, un touriste a été arrêté avec dans son sac à dos une cloche en bronze et une statue qu'il avait ramassée dans un temple en ruine. Beaucoup de temples se sont écroulés, de palais aussi, au Népal, mais plusieurs éléments donc d'ornements vieux parfois du 4 ou du 5e siècle après Jésus-Christ, sont donc à portée de main, comme ça, dans les ruines. Tout le monde peut les prendre. Il y a aussi des trésors que le séisme a révélés, puisque dans les temples népalais, les stupas, on emmure au fil des siècles tous les dons votifs des croyants, objets précieux qui sont aujourd'hui à découvert, comme l'explique Christian Manhart, responsable de l'UNESCO à Katmandou.
Il y a absolument un risque de pillage sur beaucoup de sites, parce que maintenant les statues, les poutres sculptées sont dégagées. Et également, nous avons par exemple sur le site de Swayambhunath, à l'intérieur des stupas, nous avons trouvé par exemple des petits stupas votifs, donc qui sont de taille de 2 cm de haut environ, mais il y a des centaines dedans, donc personne ne savait que c'était dans les stupas. Sur le même site, nous avons également trouvé des pièces de monnaie du 19e siècle, également quelques bijoux. Donc il y a énormément de choses qu'il faut protéger maintenant.
Les moyens de l'UNESCO et des autorités népalaises sont pour le moment limités.
Oui, puisque jusqu'à hier encore, il y avait des répliques de ce séisme. Les seuls archéologues disponibles, finalement, ceux qui étaient en vacances à ce moment-là et qui sont restés dans le pays pour aider à notamment recenser les dégâts. Et puis aussi, la vie religieuse reprend aujourd'hui. C'était la fête de la naissance de Bouddha le 4 mai. Et Christian Manhart a beaucoup travaillé pour que les cérémonies n'aient pas lieu dans les temples précisément, où le public aurait pu se servir. Mais à côté, il tente de mettre en place diverses stratégies pour éviter les pillages.
Il y a plusieurs moyens et ça dépend du site. Donc à Soyambu, par exemple, c'est les prêtres et les gens qui habitent directement sur le site du patrimoine mondial qui sont très organisés et qui protègent tout. Donc sur d'autres sites, c'est la police ou l'armée. Donc le public ne peut pas s'approcher, ce qui est une très bonne chose. Là aussi, avec le département d'archéologie du Népal, ils nous ont donné aujourd'hui un devis pour installer des caméras de sécurité sur tous les grands sites de la vallée de Katmandou, et l'UNESCO va payer pour l'installation de ces caméras.
Voilà, et par ailleurs, l'UNESCO a renforcé évidemment les contrôles aux frontières à la douane et pris contact avec les commissaires-priseurs spécialisés en art népalais partout dans le monde pour qu'ils soient particulièrement vigilants dans les mois qui viennent. Par ailleurs, et c'est une grande conquête, l'UNESCO a réussi à obtenir que dans l'aide humanitaire globale qui est débloquée par l'ONU pour le Népal, donc l'aide qu'on vote en général après les grandes catastrophes, soit intégrée pour la première fois un budget pour la culture. C'est une première dans l'histoire de la gestion de crise.
Et tout de suite, Zoé, on passe au bref.
Et l'on ouvre avec la fréquentation en très forte baisse du Technival, festival de musique électro qui s'est tenu ce week-end dans le nord, près de Cambrai. Elle n'a réuni que 32 000 personnes, c'est moitié moins qu'il y a 2 ans. Les organisateurs attribuent cette baisse aux incidents heurts avec les forces de l'ordre ou des interdictions de dernière minute qui pleuvent sur les fêtes libres et dénoncent globalement un acharnement contre la culture rave, alors que selon eux, cette édition s'est déroulée sans incident majeur.
Bayonne lance un portail numérique de la culture basque.
Plus de 100 000 documents, dont 50 000 en langue basque, l'euskara, sont maintenant en accès libre sur le site de la ville de Bayonne. Il est baptisé Bilkita, ce portail, ce qui signifie cueillette en langue basque. Il est fruit de la mise en commun de fonds de plusieurs bibliothèques municipales basques et universitaires, et évidemment avec le soutien de fonds privés et de la Bibliothèque nationale de France.
La justice ordonne le retrait d'une statue chrétienne dans un lieu public.
Le tribunal administratif de Rennes a ordonné le retrait du domaine public d'un monument à Jean-Paul II qui avait été érigé sur une place de la ville de Ploermel en Bretagne, en contradiction, dit le tribunal, avec la loi de séparation des églises et de l'État. Cette statue avait été financée par des fonds publics et elle avait même poussé la ville à rebaptiser la place Place Saint-Jean-Paul. La ville a 6 mois pour démonter la statue, mais la mairie a déjà indiqué qu'elle ferait appel de cette décision.
Et la dernière ?
La dernière, c'est une histoire loufoque et futuriste de musique électro, oui, mais au sens premier du terme, au sens propre du terme. Ou comment, alors que les orchestres et les chœurs meurent partout en France, eh bien, ils peuvent être remplacés tout simplement par des smartphones. Et oui, sachez qu'il y a une grande vague qui consiste à faire de la musique avec des smartphones en enregistrant des petits bruits et en faisant jouer des smartphones tous ensemble. Il y a une véritable vague et il y a même un compositeur et improvisateur français, Xavier Garcia, eh bien, qui s'est un peu spécialisé dans cette affaire. Il a demandé au Centre National de Création Musicale de Lyon de créer une quinzaine d'applications qui permettent à des usagers d'un smartphone de produire des sons en réalisant des mouvements avec son mobile, avec des notes. Donc de cette recherche est sorti un concert qui s'appelle Smart Faust, sur la thématique de Faust, où un chœur de smartphone est accompagné de la mélodie par des vrais solistes, harpe, batterie, clarinette, qui jouent avec des smartphones. Xavier Garcia dirige.
Comment ça qu'ils jouent avec des smartphones?
C'est-à-dire qu'eux, ils jouent vraiment, quoi.
Ah, d'accord,
et
oui,
ils sont accompagnés par un orchestre de smartphones.
D'accord, j'ai pas compris.
Alors voilà, lui, il dirige non pas à la baguette, mais à l'aide de son propre téléphone, évidemment. Voilà, il y a 3 pièces musicales qui ont été écrites spécialement pour ce nouveau concept de concert. Il y aura un concert qui sera donné le 21 mai dans le cadre du Festival de musique contemporaine Sony. Et la 4e pièce fera intervenir le public si vous avez des iPhones, avis à vous.
Merci Zoé. Peut-être des réactions de la part de nos invités à ce que l'on vient d'entendre, Alain Chocard ou Petr Vaclav.
Bon oui, c'est parfait.
On
sera tous compositeurs.
Bon, c'est déjà arrivé. Alain Chocard, je voyais réagir par rapport à cette nouvelle d'une statue de Jean-Paul II en Bretagne. Je vous ai vu sourire à cette évocation.
Oui,
mais c'est peut-être autre chose qui a retenu votre attention, en fait.
Non, je ne fais pas que sourire. C'est aussi parce que dans mon film en Afrique du Sud, le quotidien de la foi et de la prière est tellement important, mais en même temps il est tellement inscrit dans les petites choses que là d'un seul coup le face d'une statue dans un lieu public me semblait très très décalé avec des choses que j'ai vécues ces dernières années.
On se retrouve demain, Zoé.
Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter ou podcaster ce journal sur le site de France Culture.
Le rendez-vous.
Dieu Tout-Puissant, toi qui donnes la vie et la mort, s'il te plaît, dis à maman que je pense à elle tous les jours.
She doesn't have no grave. Same as the 11 of Lady Grey.
C'est la police qui a caché les corps.
Plateau Drakensberg avec vous, Alain Chocard. On vient d'ouvrir sur une évocation rapide de votre premier long métrage, Lady Grey, qui sortira en salle mercredi prochain. L'histoire en quelques mots, on est dans les montagnes sud-africaines, au cœur d'une mission française. 10 ans après l'apartheid, les communautés noires et blanches vivent ensemble dans le silence pour oublier la violence des affrontements passés. Mais ce passé va ressurgir et fragiliser la difficile réconciliation. On veut filmer et croiser 3 histoires avec chaque fois des secrets. On va pas les révéler. Il est question des rapports entre des pères et des fils, et puis il y a la révélation d'un crime raciste pendant l'apartheid. Pour ce film, vous avez adapté 2 romans d'Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, et puis La dernière neige. 2 romans qui étaient plutôt axés sur des relations père-fils, mais dans des lieux indéfinis. Qu'est-ce qui permettait de les lier au contexte sud-africain pour votre film ?
Ce qui permettait de les lier, c'était aussi l'envie que j'avais moi-même de tenir un propos complètement universel autour de la douleur d'une nation dont les communautés sont à la fois réunies par les événements traumatisants de l'histoire, qui sont souvent des événements violents, et puis en même temps qui rendent terriblement solitaire chaque individu avec ses propres douleurs, ses propres blessures. Et c'est là souvent les thématiques qui sont abordées dans les romans de Mingarelli. C'est souvent des hommes, d'ailleurs il y a beaucoup d'absence de femmes chez Mingarelli. Et puis ce sont des personnages qui ne sont pas seuls mais qui sont très solitaires et qui doivent tout le temps à travers des petites choses du quotidien prendre des décisions, avancer, et on se rend compte en fait que ce qu'ils font et ce que nous faisons est terriblement héroïque. On se rend compte qu'en fait que faire manger son enfant, nourrir une famille, faire pousser des plantes, c'est quelque chose d'assez héroïque. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Mingarelli, c'est la grande importance, l'espèce de côté complètement cosmique qui donne aux petits événements du quotidien vécus par chacun d'entre nous.
Quel lien avec votre propre parcours personnel, par exemple, pour s'intéresser à la fois donc à Mingarelli et puis aussi donc à l'Afrique du Sud ?
Alors beaucoup de choses. Moi, j'ai grandi en milieu rural. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud que je décris est une Afrique du Sud qu'on voit rarement. Généralement, quand on dit Afrique du Sud, ou bien on pense au grand parc avec les animaux sauvages,
ou bien on pense,
ou alors on pense à la poussière rouge, voilà. Et moi, c'est une Afrique du Sud totalement verte, rurale. Il y pleut, il y neige d'ailleurs. Donc ça, c'est des choses moi qui me sont assez proches. Et je vis encore maintenant en zone rurale. Ce sont des relations humaines que je trouve très fortes dans la manière dont aussi on vit au quotidien les éléments, la nature, l'environnement, l'espace, le ciel, la pluie. On est en attente de quelque chose d'autre que la simple relation entre les hommes. Donc ça, c'est la partie, je dirais, rurale Drakensberg. Et puis l'Afrique du Sud, c'est un engagement personnel, politique, que j'ai eu très très tôt.
Très tôt, jeune adolescent, vous tractiez pour l'Afrique du Sud, alors même que vous étiez...
J'étais au collège, j'avais à peine 14 ans, je commençais à tracter pour l'Afrique du Sud. Oui. Ben, en fait, il se trouve que j'ai fait ma scolarité secondaire à Aulnay-sous-Bois, et beaucoup de mes copains de classe étaient issus de l'immigration, et ça se passait très bien jusqu'au jour où j'ai découvert en fait qu'on pouvait être raciste. Et c'est quelque chose qui m'a profondément, profondément heurté. Et ça, c'est quelque chose qui encore aujourd'hui, je vous dis, c'est une des rares choses pour lesquelles je pourrais vraiment me mettre dans une colère très profonde. Oui.
Venons à la gamme.
Vous dites aussi que ce qui vous intéressait chez Mingarelli, c'était son réalisme poétique, qui le rapproche notamment de l'école de Missoula, les auteurs du Montana, comme Richard Ford. On aurait donc pu imaginer ce film en Amérique. Pourquoi, du coup, l'Afrique du Sud et pourquoi pas l'Amérique ?
D'abord, quand on est français, qu'on fait un film en Amérique, tout de suite, il y a le rêve américain, il y a un côté j'ai envie de faire un film américain, voilà, et c'était pas du tout mon envie. Et puis vraiment, l'Afrique du Sud, c'était les romans de Mingarelli souvent se passent dans des pays en guerre ou qui ont été en guerre. dans lesquels il y a de grands bouleversements. Je trouve que la situation sud-africaine est très forte en cela, dans le sens que c'est un pays qui a vécu un tel traumatisme, qui a tellement séparé les communautés, qui a tellement brisé individuellement les individus, que ça me semblait vraiment pouvoir être l'arrière-plan dont j'avais besoin pour les romans.
Petr Vaclav, vous étiez à Prague, vous, dans les années 90. Vous aviez des échos de ce qui se passait en Afrique du Sud ?
Bien sûr, on les a eus. Après, je sais pas, j'ai pas un souvenir très exact. Oui, je pense que ça venait, les changements en Afrique du Sud, ça venait pour les Tchèques aussi, au moment où eux changeaient.
Eux vivaient aussi.
Où le monde changeait. Donc,
un bouleversement.
Il y avait aussi cette image de Vaclav Havel, de Nelson Mandela. Donc je pense que c'était vécu. Mais en fait, après ce que j'ai vécu avec les Roms, je me demande à quel point ces problèmes de racisme étaient sincèrement vécus par un certain nombre de gens, mais ça, c'est des mystères qu'on n'arrive pas à éclairer très clairement comment c'était vécu dans l'intimité des gens.
Benoît.
Alain Chocard, vous avez beaucoup travaillé à partir de livres et de références sud-africaines, et je pense notamment à l'histoire d'une ferme africaine qui a été traduite en France par Une nuit africaine d'Olive Schreiner, militante féministe, pacifiste. Un de vos personnages se prénomme d'ailleurs Olive. Quelle a été l'importance de ce texte qui vous a accompagné, dites-vous, pendant toute l'écriture du scénario ?
Oui, c'est vrai que j'ai donné le nom d'un des personnages, le personnage que joue merveilleusement bien Emily Mortimer. J'ai donné le nom d'Olive en hommage effectivement à Olive Schreiner, ainsi que Waldo. Hein, le jeune donc Jude Foley qui joue le rôle du fils de Peter Sarsgaard. Waldo, c'est un des personnages, un des jeunes garçons d'une ferme africaine. C'est un roman qui m'avait beaucoup marqué, d'abord parce que ça parle de l'enfance, ça parle d'enfants sans père, d'enfants qui doivent essayer de grandir à la fois dans une espèce de credo dans l'avenir, mais ce qu'ils savent de l'avenir n'est que ce que les adultes leur disent. Et ça, c'était un des thèmes du film. Et puis c'est vrai qu'il y a une phrase d'Olive Schreiner qui m'avait pas mal inspiré au moment de l'écriture. Alors je sais plus trop si de mémoire je pourrais la ressortir, mais c'était quelque chose comme les enfants le matin se précipitent pour ramasser dans les hautes herbes les gouttes de rosée qui brillent comme des diamants. Ils y plongent leurs mains et se retrouvent les mains vides et les doigts mouillés. Et je trouvais que ce mélange d'espoir fou et de désespoir jamais triste, ça ressemblait quelque part au film que j'avais envie de faire.
L'apartheid a été aboli en 91, or il vous a fallu attendre 99 pour vous rendre pour la première fois en Afrique du Sud. C'était pour les besoins d'un film de John Barry. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
J'y serais volontiers allé plus tôt.
Il a fallu que ce soit le cinéma qui vous y amène ?
Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais rarement en dehors de mon métier. J'aime bien voyager dans le cadre du travail. Une rare exception, vous faisiez allusion tout à l'heure à l'école de Missoula. C'est vrai que je suis parti en famille dans le Montana, étant un grand fan de la littérature du Montana. Donc je voulais voir Missoula, voir l'endroit où Rick Bass enseigne la littérature, et puis voir tous ces grands espaces. Oui.
Et vous avez rencontré des écrivains à cette occasion ?
À Missoula ?
Ouais.
Non, j'étais en famille. J'avais l'occasion de rencontrer James Liebert, et puis je me suis pas senti de le déranger. Il devait être en famille. Il y avait tout un tas de fêtes avec des rodéos. Je pensais qu'il devait être très très heureux à manger des hamburgers et à boire du Dr Pepper. Donc
j'imagine que l'Afrique du Sud et les montagnes du Drakensberg ont pu aussi libérer des images. Je m'adresse bien sûr au chef opérateur que vous avez été, notamment auprès de Bertrand Tavernier jusqu'en 2004. Quelles sont les lumières, les plans qui ont pu être à l'origine de cette première réalisation pour le cinéma, Alain Chocard?
Je dirais, c'est plutôt la manière de m'en être libéré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup beaucoup travaillé sur l'image, sur la prise de vue, sur la lumière, sur la caméra, ça fait que les paysages ont une grande importance dans le film. Les personnages vivent dans un paysage immense qui à la fois les écrase et puis leur donne en même temps un espoir fou dans une dimension de peut-être quelque part une force supérieure qui peut être bienveillante avec un peu de chance. Et donc j'ai fait des repérages très très précis pour faire en sorte que toutes les scènes se tournent dans un environnement assez grandiose, mais sans qu'on ait besoin de le montrer. C'est-à-dire sans faire des plans très très alambiqués avec des grands mouvements de caméra pour voir le paysage. Les personnages vivent dans un paysage immense. Qu'ils ne voient pas, ils vivent, pour eux c'est normal, mais nous le voyons.
Et donc en termes de plans, de caméra, qu'est-ce que ça supposait de filmer des espaces que les personnages ne voient pas.
Et puis, je dirais surtout de filmer des personnages dans un écrin qui naturellement les environnait. Qui n'était pas quelque chose qui et en plus très souvent on est au-dessus des montagnes, on se rend compte que très souvent ils sont très très hauts ces personnages, les montagnes sont souvent un petit peu en contrebas, donc aussi je pense que ça amène une grande notion d'isolement, ils sont très loin, très haut et très près du ciel surtout.
Comment vous parlez à votre chef opérateur, vous qui avez été longtemps le chef opérateur pour d'autres et notamment Tavernier, comment vous communiquez?
Alors déjà on communiquait en anglais puisqu'il était néo-zélandais. Et non, c'était. Je dirais que ce qui était bien, c'est qu'il savait que je comprenais ses problèmes. Donc, parce que souvent, il y a toujours une part de négociation. Vous savez, dans la création collective, à un moment donné, vous avez un metteur en scène qui demande un truc complètement fou, et puis vous voyez toute l'équipe qui d'un seul coup a les épaules qui tombent, ça va être impossible à faire. Bon, donc il se doutait que j'allais me rendre compte de la complexité technique qu'il pourrait y avoir pour faire certaines choses, donc j'évitais de les demander. Par contre, il savait que j'avais une grande exigence, et puis que surtout j'attendais de lui qu'il me surprenne, c'est-à-dire que j'avais pas envie de lui dire quoi faire, mais j'avais envie de lui parler de mes émotions. D'ailleurs, souvent on a parlé bien sûr de cinéma en préparation, on a aussi parlé de plein d'autres choses, de nos familles, de nos voyages, et je crois que ça fait partie aussi de la relation de travail.
Vous avez montré des films de Terrence Malick, par exemple, parce que je sais que vous êtes plus particulièrement amateur de ce cinéma-là.
Oui, il les avait vus. Je vais demander effectivement s'il avait vu ces films-là, les films de Malick, certains films de Ford, aussi les films de Nourdine Bilgeç-Ceylan que j'aime énormément, comme il est une fois en Anatolie, qui est aussi comme ça la narration d'un groupe de personnages dans un immense univers qui était l'Anatolie, enfin dans un très grand paysage très très vaste, et qui sont tous confrontés à leurs troubles intimes alors qu'ils sont dans un groupe. Et ça, c'était aussi quelque chose qu'il y avait dans mon film.
Benoît ? Alors, comme chaque soir, nous demanderons à nos invités de nous proposer un son. Et voici un chocard, ce que vous aviez envie d'écouter. Identification de ce son et sa signification, Alain Chocard.
Alors ça, c'est un. Je vous remercie d'avoir réussi à trouver un extrait parce que c'est un thème qui fait plus de 30 minutes. C'est Three Worlds of Drums de Charles Mingus, tiré d'un album qui s'appelle Me, Myself and I. Alors Mingus, parce que d'abord je suis un amoureux inconditionnel de tout ce qu'a fait Mingus. Je trouve que là, il a passé quelques décennies, trop peu de décennies d'ailleurs, à composer, avec une espèce de constance terrible. On reconnaît tout le temps Mingus. Et ce qui est extraordinaire dans cet album-là, c'est qu'il y a une trentaine de musiciens, beaucoup de musiciens qui avaient travaillé avec lui pendant longtemps, et puis d'autres musiciens moins habituels, comme Larry Coryell, comme Lee Konitz. Et dans chaque note, à chaque moment, dans chaque solo, il y a Mingus. Alors que le fait qui est extraordinaire dans cet album, c'est que Mingus ne joue pas. À l'époque, Mingus est très malade, c'est un an avant sa mort, il est paralysé, il est sur une chaise roulante. Et parfois, on l'entend ahanner, on l'entend un peu souffler, grogner. Et on sait, il est chef de bande, il est compositeur génial, et en même temps, il est chef de bande, il dirige tout le monde. Et tout le monde l'aime tellement que tout le monde sort le meilleur de soi-même pour faire sa musique. Donc c'est à la fois ça que j'aime énormément dans cet album. Et puis Mingus aussi, il faut savoir que 20 ans plus tôt, Mingus compose la musique du premier film de John Cassavetes qui s'appelle Shadows, aussi un film sur la ségrégation raciale que Mingus fait complètement en improvisation avec Shafi Hadi au saxophone. Et c'est peu de temps après que Mingus ait composé aussi un des grands, grands thèmes qui a beaucoup marqué son œuvre, qui était Fables of Phobus, qui racontait, parce que tous les thèmes de Mingus racontent une histoire. Et Fables of Phobus, c'est l'histoire de Phobus, qui était le gouverneur de l'Arkansas, qui envoie la garde civile pour empêcher, je crois, c'est 6 ou 9 lycéens noirs à intégrer une école blanche.
Benoît.
Alors vous êtes accompagné ce soir par les auteurs, compositeurs, interprètes Peter Van Poel et Marie Modiano qui ont participé à la bande originale de votre film. Alors une explication quant au choix de Peter Van Poel, justement, pour ce film sur l'Afrique du Sud. Vous auriez pu choisir un musicien sud-africain.
Non, justement, je voulais une vraie universalité. Et puis voilà, je vous invite évidemment à aller voir le film et puis aussi à écouter la BO. Vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu travailler avec Peter et puis avec Marie qui a composé de très belles chansons pour la fin du film.
Vous les connaissiez auparavant, j'imagine?
Je connaissais juste j'avais entendu le dernier album de Peter que j'aimais beaucoup et qui ne ressemblait absolument pas du tout à ce que je cherchais pour mon film et je sentais des choses à la fois une espèce de liberté, de douceur, une forme, alors je sais pas pourquoi j'ai envie de dire une forme de ténacité. Et je ne sais pas si ce qui le caractériserait le plus, mais finalement, il y a ça dedans, je pense.
Voilà. Bon, on va voir si on écoute ça, Benoît.
Voilà, donc en direct du studio 108 de la Maison de la Radio, on retrouve Peter Van Poel et Marie Modiano, tous les deux au piano, mais aussi à la guitare, side by side pour le titre qui clôt le film dans les chocards. C'est à vous.
Knocking at my door today. The ball is in your court. Half of me is running somewhere with you, and this line. Here we are, fading away side by side. Thank you.
Peter Van Pearl, Marie Modiano, Side by Side, donc un extrait de la bande originale du film d'Alain Chocard, Lady Grey. La bande originale du film est disponible depuis aujourd'hui sous le label Nest and Sound.
Le rendez-vous.
Sebastian, zeptal byste Romka, že?
Nikdo vás tu nedrží, všichni tady máte dluhy, mě to nezajímá. Zbalte se, seberte se a můžete jít.
Já mám s tebou podepsanou smlouvu a neser mě, nebo to půjdu dát na sociálku. Zavolal jsem televizi. A pak budeš takovej bordel, že se zblázníš.
Plateau Ostrava avec vous, Petr Vaclav, réalisateur tchèque, découvert au milieu des années 90 avec un documentaire, c'était Madame Lemurie, puis une première fiction en 96, Marianne, enfin Les Mondes Parallèles, coécrit avec Marie Desplechin, et puis mercredi, ce sera la sortie en salle de votre troisième long métrage, Zanetta, dont on vient d'entendre en écho, en ouverture de plateau. Zanetta, c'est une jeune femme rome, en République tchèque, mère d'une petite fille de 3 ans, elle tente de s'en sortir en restant dans la légalité, c'est-à-dire trouvant un emploi stable dans un pays qui fait tout pour pousser les Roms hors de son système et hors de ses frontières. À propos de ce film, l'écrivaine Marie Desplechin écrit qu'il est né, je la cite, « de la fascination exercée dans la Tchécoslovaquie socialiste par les Noirs sur le petit garçon blanc que vous étiez ». Vous pourriez nous expliquer cette interprétation ?
Bah, tout simplement qu'on vivait dans un pays entouré de barbelés, on ne pouvait pas voyager, on ne voyait pas d'altérité, on ne voyait quasiment pas d'étrangers. Et donc les Roms, c'était la seule altérité pour moi, les gens qui soulevaient ma curiosité, mais c'était pas facile d'aller leur parler parce qu'ils vivaient à côté de nous, mais une loi non dite disait qu'ils nous parlaient pas et nous parlions pas aux Roms, donc ça a pris du temps afin que je puisse pénétrer dans le milieu de Roms et s'intéresser à eux.
Et à quelle occasion vous avez pu le faire?
C'était petit à petit. En fait, le moment vraiment déclencheur, c'est que j'avais un ami qui ne pouvait pas étudier parce que sa mère était dissidente. Et donc, il s'est engagé en tant qu'éducateur dans une maison de correction qui, à l'époque, était vraiment les maisons qui servaient de l'assimilation pour des Roms. Et comme ça, j'ai pu visiter cet établissement. C'était vraiment une prison dure, une prison pour enfants. On les aidait, on essayait de leur organiser les sorties à la montagne, à la campagne. Et comme ça, je me suis lié d'amitié avec les premiers Roms et ça a duré jusqu'à présent.
Alors, on a une question de la part de notre stagiaire dans l'équipe. Elsa.
Oui, Pat Vaclav, je me demandais ce que vous pensez de l'image du gitan au cinéma aujourd'hui, quand on pense au cinéma, au film d'Emir Kusturica ou Tony Gatliff, par exemple.
Bah, je pense plein de choses, mais pour ma part, j'ai voulu faire autrement. J'ai voulu donner l'image, je ne dis pas plus réaliste, mais plus proche de ce que je connais, une image débarrassée du folklorisme. Bien sûr, il y a une certaine fascination par le monde gitan, par leur visage, par leur manière de parler, par leur manière de se comporter. Mais j'ai voulu en même temps, si Kusturica ou l'autre...
Tony Gatliff,
vont vers les sources, en fait, disons, un peu folklorique. Moi, j'ai voulu plutôt montrer l'assimilation, cette culture, ce monde, en fait, qui a rompu avec la tradition et qui est dévasté, comme les Amérindiens, par exemple. Ce sont nos Amérindiens.
Benoît Lagan.
Alors, votre premier long métrage racontait l'histoire de Marianne, jeune Rome qui avait grandi dans les maisons de correction et la prison. Et c'était, dites-vous, le parcours typique de milliers de Roms sous les communistes. Un peu moins de 20 ans plus tard, vous signez Zanetta et on retrouve Marianne, enfin le comédien Milan Cifra. Il est toujours là dans le rôle de Marianne. Il est voyou dans le film. Qu'est-ce que l'évolution de ce personnage raconte justement de l'évolution de l'histoire des Roms en République tchèque en 18, 19, 20 ans?
En fait, il ne joue pas Marianne.
Non.
C'est pas la suite du
film. Mais il s'appelle Marianne.
Mais quand j'ai décidé d'aller à nouveau.
Il y a un écho donc.
Oui, bien sûr, il y a un écho. Il y a un hommage à ce personnage. Quand je suis rentré en Tchéquie pour m'intéresser à. Pour préparer mon film, pour écrire le scénario, je ne savais pas encore ce que ça allait donner. Mais je suis atterri, bien entendu, chez Milan. J'ai pris de la voiture, je l'ai retrouvé dans un village. J'étais étonné de voir ce garçon qui était très beau à l'époque, très fin, maigre, mais qui était totalement taciturne, totalement lessivé par les 19 ans d'assimilation dans les maisons de correction, parce qu'il a pensé à passer à peu près peut-être 2 ans sur les 19 ans de sa vie en maison de correction. Il a passé 2 ans de vie en famille. Mais sinon, c'était un être vraiment très, très meurtri par tout cela. Et du coup, des années plus tard, je découvre un homme gros, qui pesait plus de 100 kilos, mais qui était volubile, heureux, et j'ai vu du coup qu'il s'est jamais laissé, en fait, assimiler, et qu'il est devenu un patriarche rom, qui s'occupe d'une communauté, qui parle parfaitement le rom. Or, c'était pas le cas quand je l'ai quitté en 18, hein. Et donc la force de cet homme qui se laisse pas aller, qui est imperturbable dans son identité, m'a inspiré cette volonté d'aller vers lui. Le film, j'ai commencé mes recherches dans son village et avec lui pour le scénario. Je ne savais pas comment le film évoluerait, mais je savais que le film ne parlera pas de lui, mais qu'il va atterrir à la fin du film chez lui.
Vous avez tourné avec des comédiens non professionnels, ce qui donne bien sûr au film un aspect documentaire. Pourquoi tourner avec des non-professionnels ? Vous vous méfiez de...
Non, mais je ne me méfie pas, mais déjà, les acteurs roms, ça n'existe pas. Donc, par définition, si vous voulez faire un film avec les roms, il faut faire un film avec les non-acteurs.
À part de faire jouer des professionnels qui joueraient le rôle de roms.
Ah oui, ça serait complètement dégueulasse. Ah, ça serait encore une insulte. Ouais. Ça m'est arrivé avec Marianne à l'époque où les producteurs, après je suis devenu producteur par la force des choses pour produire Marianne comme je le souhaitais. Mais à l'époque, on me disait, tiens, on va maquiller les roms, nos bons acteurs tchèques, ils vont jouer les roms. Et moi, je suis parti de cette production parce que ça serait une double peine, enfin double injure aux Roms de les faire jouer par les gadgets qui en seraient incapables.
Alain Chocard, un commentaire sur ce que l'on vient d'entendre?
Non, plus une question. Je veux savoir comment la population tchèque accueille les Roms, comment ils sont, à quel stade on est l'intégration aujourd'hui, comment ça se passe là-bas?
Ah oui, c'est vous le cinéaste qui me dévie encore une fois vers la politique. Ouais. Ça, c'est ce que je crains le plus parce que c'est difficile. On parle souvent, quand on aborde ce film, on parle pas du film, mais je passe toujours pour un type qui doit dire quelle est la solution à la problématique rom et tout ça. Voilà.
Parce que moi, je suis allé il y a très longtemps, je suis allé à Prague à l'époque communiste. Et c'est vrai que je suis pas resté très très longtemps, mais j'ai pas vu de communauté. Alors c'est pour ça que c'est une vraie question de curiosité.
Oui, en fait, non, mais ils vivent comme des citoyens de seconde zone. Qui comme souvent ils n'ont pas diplôme, ils ont leurs difficultés propres. Hein, et donc quand vous rajoutez à ces difficultés les 20 ans du néolibéralisme et la fin des industries lourdes, la fin des mines, ce sont les premiers qui se retrouvent sans emploi. Et comme en République tchèque, ce qui est maintenant très populaire, c'est les emprunts. Les banques. Donc, ce pays a instauré un système absolument invraisemblable où si vous payez pas 16 couronnes de tickets de bus, ça peut monter à des amendes de 16 000, 160 000. C'est absolument incroyable. Et le législateur, que je soupçonne d'être de mèche en quelque sorte avec ses huissiers, avec tout ce système d'usure, en fait, hein, ne fait rien. Et du coup, quasiment tous les Roms sont surendettés aujourd'hui. Donc, ils peuvent, même s'ils trouvent le travail par la suite, ils vont payer jusqu'à la fin de leur vie. Donc, ils se retrouvent avec un salaire saisi. Et pas que les Roms, c'est vraiment un problème des gens pauvres qui se sont retrouvés dans ces situations dont ils sont responsables seulement en partie. Et en grande partie, à mon avis, c'est l'État qui les a poussés dans ces situations invivables.
Petr Vaclav, encore un commentaire sur la dimension de fiction documentée que vous avez eue pour ce film, notamment au niveau de ce casting avec des non-professionnels. Elsa ?
Oui, j'ai pu lire dans un entretien que pendant le casting sauvage que vous avez rencontré énormément, énormément de gens, des milliers je crois, comment ces personnes ont réagi quand vous les avez invités à passer devant la caméra, à jouer sachant qu'habituellement ce sont des personnes qui sont rejetées ?
Ben, je dirais que ça s'est passé très bien parce que déjà, ce qui m'a aidé, ils savaient déjà que j'étais réalisateur de Marianne, ce qui est un film qu'ils connaissent tous parce que c'est quasiment le seul film qui a été fait sur les Roms. Et eux, leur difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à se reconnaître dans les médias, dans l'image médiatique d'eux-mêmes. Donc, par ce biais-là, j'étais déjà bien reçu. Après, c'est une histoire d'attitude. Et si vous parlez aux Roms correctement, si vous vous intéressez à eux, quand même, ils n'ont pas beaucoup de révolte. C'est quand même des gens, curieusement, qui sont très maltraités, mais qui ont envie de communiquer avec vous, qui ont envie d'avoir un échange avec les Tchèques, avec les Gadges, avec nous. Donc ils avaient vraiment tous envie de se comprendre avec moi et de participer à un film qui raconte leur vie.
Benoît, et le casting a fait justement évoluer le scénario. Sur quel point, par exemple, vous êtes parti? Dans quelle direction suite à des rencontres?
Non, ça n'a pas changé globalement les choses, mais dans le détail, je sais pas, c'est difficile de vous dire ça. Mais bon, des petites histoires, ça nourrit quand même ma connaissance du sujet, des gens, des psychologies, des manières de parler, des mots que je connaissais pas. Donc c'est complexe.
Ce sujet, vous auriez pu en faire un documentaire, mais vous défendez vraiment une fiction à l'esthétique documentaire. Qu'est-ce que cela vous permet en termes de cinéma, en fait?
Je ne sais pas, je ne défends pas ça. Plutôt, je défends l'abolition de cette séparation un peu idiote, quelque part, de cette abolition des frontières entre la fiction et le documentaire. Parce que... je pense que dans chaque fiction, la partie documentaire, enfin la partie en fait spontanée, c'est ce qui est le plus intéressant. Donc pour moi, là, j'arrive pas, je veux pas faire la séparation entre le documentaire et la fiction.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris lors de vos études à l'école de cinéma de Prague?
Je sais pas.
Ou en réaction à l'enseignement que vous avez rencontré?
En fait, j'ai toujours voulu faire des films qui soient pas engoncés, qui soient pas théâtraux.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Non, je sais pas. Non, parce qu'il y a tout un cinéma que je n'ai jamais aimé, tous ces cinémas où les gens s'embrassent dans le plan serré et puis ils partent dans le plan large. Voilà, tout ça. Donc voilà, ça m'a toujours mené à ce cinéma. Je préférais toujours Jean Rouch à je ne sais pas quel auteur américain.
De votre côté, Anna Chocard?
C'est sûr que... Quand on écrit un film qui va faire se confronter des communautés qu'on connaît plus ou moins, ou qu'on a envie d'approfondir, forcément il y a une part documentaire. C'est que moi je suis allé écrire mon scénario en Afrique du Sud. J'ai écrit une première version en France. Puis j'ai travaillé avec une co-scénariste anglaise. Ensuite je suis parti en Afrique du Sud à deux reprises tout seul. J'avais plusieurs milliers de kilomètres et j'ai rencontré énormément de gens. Et je voulais deux choses. D'une part, effectivement, m'assurer que la vision que j'avais, malgré toute la documentation que j'avais pu avaler, la vision que j'avais de la vie en Afrique du Sud était suffisamment réaliste. Et puis, je voulais apprendre des choses. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses en rencontrant des gens, des agriculteurs, des pasteurs, des gens des townships, des gens des classes moyennes, des gens pauvres, des fermiers très, très riches. Et il y a pas mal d'histoires, d'ailleurs, que je rajoute dans le scénario. L'histoire par exemple, les chacals qui égorgent les troupeaux, c'est quelque chose que j'ai vécu là-bas pendant mon séjour en Afrique du Sud.
Oui, parce que ça nous nourrit. Je pense qu'un cinéaste, pas tous les cinéastes. Ah oui, j'ai dit Rouch à Capra, mais...
Ah oui, vous préférez Rouch à Capra.
Oui, mais chaque cinéaste, je trouve qu'il est un peu anthropologue. Il faut être anthropologue. Il faut se nourrir par... On va vers le monde aussi.
Comment votre cinéma est regardé en République tchèque?
Ben, je sais pas. On a eu quasiment tous les prix nationaux là-bas, dont la dernière avant-hier. Après... c'est considéré comme un film quand même un peu troublant, comme un film qui a suscité quand même des passions.
Des passions?
Ouais.
Des débats?
Des débats, des passions, de la haine aussi, parce que c'est un film qui a ses admirateurs et en même temps il y a pas mal de choses très violentes qu'on peut trouver en bas des pages, dans les commentaires sur l'internet, parce que certaines personnes vraiment détestent l'idée qu'on puisse faire avec, comme ils disent, avec l'argent public, avec notre argent, les films des saloperies pareilles qui racontent, qui veulent embellir les gens qui vont jamais bosser, qui vont jamais travailler, etc., etc., ouais.
Alors, comme pour Alain Chocard, nous vous avons demandé de nous proposer un son. Et voici, Ptar Vaclav, ce que vous nous avez envoyé.
Ah,
On a tout bien fait comme vous nous avez dit.
Identification de ce son, sa signification pour vous, Vaclav.
Oui, c'est un son, c'est des chiens qui aboient, n'est-ce pas? Et du coup, c'est un son qui exprime en fait une certaine tendresse que j'ai pour la campagne et pour une certaine détestation de la campagne. Parce que quand on voit ce son, quand on entend ce son, je pense qu'il fonctionne à double tranchant. On ne sait pas s'il nous dégoûte ou s'il nous plaît.
Alors j'ai cru comprendre que vous allez descendre prochainement à Cannes pour le festival pour tourner des scènes d'un film avec les acteurs de Zanetta. C'est quoi ce projet juste en quelques mots?
En fait, c'est...
C'est un faux projet?
Non. Non, c'est un projet qu'on a inventé comme ça dans la salle de montage, en regardant un des Toxico qui joue un rôle accessoire dans le film Zanetta. Et on s'est dit, tiens, ça serait intéressant si ce type sortait de la prison, et s'il voulait chercher son bonheur en France.
Au Festival de Cannes.
Pour devenir quelqu'un de célèbre. Donc ça devient un road movie où le type quitte la prison tchèque et il voyage jusqu'à Cannes pour en fait obtenir un rôle là-bas, ce qui est complètement loufoque, mais lui, dans sa naïveté, il trouve que c'est la seule idée en fait de trouver. Parce qu'il peut pas gagner de l'argent légalement, comme il a le casier judiciaire, etc. Donc il opte pour cette solution. Il ne va pas réussir, mais il va retrouver une femme qui se prostitue en Italie. En fait, ça va se terminer à Palerme.
Le rendez-vous extérieur.
L'auteur de votre adolescence.
Je dirais tout simplement Verlaine, Rimbaud. Et puis Guillaume Apollinaire, que j'aimais beaucoup, voilà, qui a été peut-être pour moi la première personne qui a créé de la différence au sein du langage et qui m'a touché, dont j'ai compris que quelque chose se passait avec lui dans l'écriture.
L'auteur que vous aimiez et que vous n'aimez plus ou que vous aimez moins?
René Char. Je crois que la doxa heideggerienne l'a quand même beaucoup, beaucoup perturbé. Et on voit quand même très nettement la baisse de la qualité en fait, dans sa production avant et après la lecture de Martin Heidegger.
Frédéric Sérier.
On passe d'une poésie très très sensitive, physique, puissante, à quelque chose qui relèverait d'une sorte d'illustration d'une philosophie de l'être via la poésie, et ça marche moins, je pense.
L'auteur que vous avez fini par aimer, ou que vous avez appris à aimer?
Qu'est-ce que je dirais? Je dirais Victor Hugo pour une raison très simple, c'est que... A priori, c'était pas bien, mais en fait, c'était juste génial, voilà. Alors pour moi, c'est mon côté romantique quand même, l'une de mes grandes émotions littéraires.
Le livre que vous n'avez toujours pas lu?
Lumière d'août de Faulkner.
Le livre que vous relisez?
Je relis énormément Pierre Louis, La femme et le pantin. C'est le chef-d'œuvre absolu, en 100 pages. Et proposition extrêmement discrète et subtile d'une anthropologie du désir amoureux et d'autrui comme illusion. Voilà. Je pense que c'est Lacan, quelques décennies avant Lacan.
Le livre que vous n'avez toujours pas terminé?
Là, je lis un petit roman historique qui s'appelle Les enfants du Levant, un livre sans prétention d'un certain Claude Gritti. Je respecte beaucoup ce type de littérature populaire. De quoi ça parle? En fait, il faut savoir que sur l'île du Levant, qui appartient aux îles d'Or de la commune de Vierre-les-Palmiers, entre 1860 et 1880, a été installé un bagne pour enfants. Voilà, on a compté une centaine de morts. Donc c'est un petit roman historique qui traîne de cette question. La facture est très très classique, et j'ai un petit peu de mal à le finir.
Le livre que vous aimez faire découvrir?
L'invention de Morel de Bioy Casares. On baigne bien évidemment dans un océan d'images qui nous font désirer et qui sont aussi la traduction d'une grande pulsion de mort. Alors je préfère la pulsion de mort version Bioy Casares qui lui rentre dans la machine à images et rejoint éternellement celle qu'il aime, dans une machine qui est animée encore une fois éternellement par la puissance des marées. C'est ça l'invention de Morel. Voilà.
Le livre que vous avez honte d'aimer?
Je pense que c'est un faux problème. Et en même temps, je pense qu'on a tous nos angles morts, et c'est Thomas Clair qui me disait ça. On a tous, à un moment, sur un ou deux livres, des goûts vraiment pitoyables. Alors certainement, les livres d'Erwan Manteour, un ancien champion cycliste dopé. Je citerai Secret défonce, que j'avais beaucoup aimé. Et le dernier, le titre c'est Et si on décidait d'aller bien.
Le personnage de littérature que vous auriez aimé rencontrer?
Oh, j'aurais aimé consoler le Chevalier des Grieux. Le héros malheureux de Manon Lescaut, parce que j'aime beaucoup les mélodrames, c'est quand même un peu mon espace. Et cruelle Manon, elle lui a fait perdre la raison.
Frédéric Sérier, merci.
Le rendez-vous.
C'était le questionnaire autoportrait du lundi. Il est parti très vite, hein. Je n'ai même pas eu le temps de présenter l'invité de Manu Farine. C'était l'écrivain Frédéric Sérier. Son roman Mélo est adapté au théâtre par David Bobet sous le titre Paris. La pièce sera donnée aux Subsistances à Lyon du 9 au 13 juin.
Il y a le rêve américain. Faire pousser des plantes, c'est quelque chose d'assez héroïque.
Ça, c'est des mystères hein, qu'on n'arrive pas à éclairer très clairement.
Ils y plongent leurs mains et se retrouvent les mains vides et les doigts mouillés.
Merci à nos invités Alain Chocard et Petr Vaclav. Vos films Lady Grey et Zanetta seront à l'affiche ce mercredi. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
I believe men of talent have a part to play in the war to come. The Seven Kingdoms need someone strong. Who said anything about him?
Demain, une émission drame historique avec le philosophe Mathieu Pot-Bonneville pour son essai sur la série Game of Thrones et le metteur en scène Thomas Joly pour les 18 heures du Henri VI de Shakespeare. Des annonces, Elsa.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssette Wendeuil et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Spez, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontanille et Emmanuel Mansincan et à la réalisation Lise Combe.
Sans oublier la session de Peter Van Pel et Marie Modiano. Il est 19h54, vous êtes sur France Culture, bah, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.